8h25 minutes, vous êtes à Rage Against le matin, boulevard 102-1, Rage, Jeff et Max avec vous jusqu'à 10h. Et comme promis, un petit peu plus tôt dans le show, on va jaser avec le chef de l'opposition officielle à Lévis, Serge Bonin. On va jaser du boom dans le développement urbain, de la congestion des services. Est-ce que tout est bien coordonné pour que ça fonctionne en parfaite harmonie? Jasons-en avec M. Bonin qui est au bout du fil. Bon matin.
Salut, messieurs.
Merci d'être là. Toujours un plaisir, M. Bonin.
Ben, c'est un plaisir aussi partagé.
Commençons, M. Bonin, en jasant du développement justement à Lévis. On peut lire que plusieurs projets sont bloqués faute de services. Est-ce qu'on y va trop vite? Est-ce qu'on y va dans le bon ordre des choses? Est-ce qu'on est en train de l'échapper côté développement résidentiel à Lévis?
Ben, c'est une rumeur qu'on entend depuis longtemps que les projets sont bloqués dans l'Ouest. Il y a des gens qui m'ont dit 3-4 ans avant d'avoir un permis parce que la capacité aqueduc égout n'est pas là, n'a pas été prévue. Donc, possiblement un manque de planification là-dessus, ou en tout cas, on a donné des permis trop rapidement, on a été trop généreux. C'est sûr que on s'en rend tout le temps d'offrir 1500 portes à chaque année, mais ce qui était prévu au schéma d'aménagement il y a 10 ans, c'était 850 portes à chaque année. Donc quand on en donne deux fois plus, ben on finit par rencontrer des problèmes certainement, là, parce que là il y a une pression à la hausse sur les services, pression à la hausse sur les services de police, de pompiers, les parcs, les piscines, tous les gens en demandent de plus en plus, hein, il y a de plus en plus de gens, donc c'est normal. Alors ça crée un paquet de problèmes, dont la congestion aussi, évidemment, là, mais tu sais, plus on ajoute de portes, ben, plus on ajoute de gens sur les routes. Alors, il n'y a pas de miracle, la ville est configurée d'une certaine façon. On peut bien élargir quelques routes, mais on va finir par avoir un problème si on n'a pas pensé avant qu'on allait développer à cette vitesse-là. Fait qu'on s'en fait souvent un beau trophée là, du développement rapide, mais il y a aussi des conséquences. Il faut faire attention de la façon dont on le fait et à la vitesse à laquelle on le fait. Là.
Qu'est-ce qui, selon vous, a motivé l'administration Le Houllier à aller aussi vite? Est-ce que c'est le fait qu'on vient récupérer davantage de taxes? Parce que je regarde, la ville a quand même une importante dette. C'est pas nécessairement sous contrôle. Y a-t-il vraiment une raison financière qui vient expliquer qu'on s'est dit « Hey, là, c'est 1500 portes, c'est pas 850? »
C'est toujours la raison qu'on nous donne, hein? La croissance va être payante, vous allez voir. Mais en réalité, la croissance, elle coûte, là, en ce moment. La vérité, c'est qu'il y a des villes qui ont mis des redevances au développement. Donc, quand on prend un bâtiment qu'on détruit puis qu'on fait une tour à la place, ben, on charge une taxe à chaque porte qui va être dédiée aux services qui vont être liés directement à cette nouvelle tour-là. Donc, ça, on appelle ça une redevance au développement. Terrebonne a rajouté, je pense, 5 000 $ par porte récemment. Là, on décide de prendre cette décision-là. C'est Gatineau qui l'avait demandé en premier en 2017, puis le gouvernement a fini par l'accorder.
Ça permet de financer les nouvelles infrastructures, j'imagine?
Ben exact. Tous les nouveaux services qui sont autour des gens qui s'installent, parce que quand tu as 400 portes, c'est à peu près 600 personnes. Ben eux autres, ils demandent des services, c'est sûr. Donc, il faut en créer de nouveaux, là, parce que nos services sont déjà saturés, on le sait. Hein, si on veut obtenir un cours de natation à Lévis, c'est complexe. On est chanceux si on est sur la liste, puis on réussit à en avoir, parce qu'il y en a beaucoup qui passent à côté puis qui peuvent pas. On est obligé d'ajouter des services, mais si on doit les financer nous-mêmes, ben, la croissance n'est pas payante, là, elle nous coûte. Et là, on veut nous faire la démonstration que oui, mais dans le futur, ça va nous rapporter, il va y avoir des taxes, tout ça. Moi, j'ai jamais eu cette démonstration-là, j'aimerais bien l'avoir. Je veux bien croire que plus il y aura de gens, plus il y aura de taxes, puis les gens pourront en bénéficier. Mais si on ajoute les services au-delà des taxes qu'on récolte, ben on n'est pas gagnant, là. Fait que faut vraiment le faire, le calcul, puis leur faire la démonstration. Moi, je l'ai jamais eu. Je ne sais pas si elle a été faite. Là. C'est un peu le beau rêve que la croissance rapporte. La croissance coûte aussi. Fait qu'il faut y réfléchir. Puis en densification, ben c'est sûr qu'il y a des vertus à la densification au niveau écologique. C'est un seul tuyau. Les gens sont concentrés au même endroit. Il peut y avoir des commerces. Donc, on peut y aller à pied. On prend moins souvent la voiture. On se déplace moins, etc. Bon, niveau économique aussi, c'est rien qu'un tuyau. Il est peut-être plus gros, mais... faire un bungalow avec des kilomètres de tuyaux tout le temps, ben c'est sûr que ça peut coûter plus au niveau du développement. Mais quand un promoteur développe un quartier, il paye lui-même tous ces services-là et c'est les gens qui vont acheter les maisons qui vont en payer une partie. Donc, c'est pas la ville qui va payer le développement, les trottoirs, les rues, les tuyaux. C'est le promoteur qui l'assume et celui qui l'apprend. Mais là, c'est pas le cas quand on fait du redéveloppement, quand on fait des tours à des endroits où il y a déjà des constructions qu'on détruit et qu'on densifie. Puis il y a un autre élément aussi sur la densification qu'il faut regarder. Des études sont en train de sortir sur le taux de natalité qui baisse. Donc, les gens qui s'installent là ne sont pas des familles qui se reproduisent et qui font de plus en plus d'enfants. Donc, tu sais, faut aussi rentrer ça dans l'équation, de dire oui, la densification, et faire attention, pas y aller tous azimuts, et voir quelle sorte de portrait on veut créer à Lévis aussi. Là.
Monsieur Bonnet, c'est une chose d'en jaser aujourd'hui, puis d'analyser qu'est-ce qui s'est fait. Mettons, on retourne un petit peu dans le temps. Si vous étiez au pouvoir là, pendant les prises de décision, la préparation du plan de match, qu'est-ce que vous auriez fait différent?
Ben, la première des choses, c'est qu'il faut consulter la population. Hein. Les gens sont des experts d'usage. Moi, j'aime ça dire ça. Là. C'est eux qui vivent la ville. C'est eux qui se promènent dans la ville. C'est eux qui savent à quoi ressemble leur quartier, où sont les besoins. Puis c'est eux qui vivent déjà là. Donc, quand on construit des hautes tours d'habitation collées sur un quartier résidentiel, ben, c'est eux qui en subissent les conséquences. Alors, moi, je vois trop souvent des tours montées, ou même, des fois, c'est des trois étages, mais c'est vraiment près d'une maison résidentielle déjà établie. Ils perdent leur intimité dans leur cour, peuvent plus faire un feu de foyer, peuvent plus aller dans leur piscine sans se faire regarder par une fenêtre du voisin qui vient tout à coup de s'installer à bonne hauteur en arrière de chez eux. Ça, pour moi, c'est un manque de respect des gens qui sont déjà là. Donc, ça commence par une consultation publique pour voir comment on développe les vies, quelle sorte de visage on veut lui donner, parce que la tour qu'on construit, elle va être là pour 150, 200 ans. On est en train de construire le paysage de Lévis de l'avenir. Donc, il faut tout le monde s'entendre sur quelle sorte de paysage on peut donner à Lévis. Il y a des villes qui se développent avec des densités à 10, 12 étages. Il y a des villes qui ont décidé d'aller sky is the limit, puis on va le plus haut possible. En ce moment, il y a des endroits à Lévis où il n'y a aucune limite de hauteur, sur Kennedy, entre autres. Et là, on pourrait créer un bâtiment de 100, 125 étages, si le promoteur avait les moyens, serait capable de faire ça. La réglementation le permet, le zonage le permet. Est-ce que c'est ça qu'on souhaite à Lévis? Moi, je suis pas convaincu, mais j'aimerais d'abord avoir le dialogue avec les gens. Et ça, ça a été plus ou moins fait. Bon, ils vont nous dire qu'il y a eu le schéma d'aménagement et de développement. C'est un document de 280 pages, qui pour moi est une bible. Là. C'est quelque chose que tous les gens devraient connaître, mais c'est complexe.
Il n'y a pas vraiment de citoyens qui vont aller lire
c'est
ça.
C'est exactement ça. Donc, c'est compliqué, mais ça devrait se faire par quartier, avec des cartes pour dire ben ici, on verrait ça pour l'environnement, ça pour les milieux humides, ça pour le développement. Comment vous pensez ça, vous? On réfléchit, on discute ensemble. Voici le portrait sur lequel on s'entend, puis où est-ce qu'on aimerait aller. Parce que est-ce qu'on veut vraiment des tours de 40, 50, 60 étages au centre-ville de Lévis? C'est possible, à certains endroits, on peut le décider. Moi, j'ai pas de problème avec ça, mais il faut faire le dialogue, puis il faut vraiment s'entendre sur quelle sorte de visage on veut donner à Lévis, parce qu'au-delà d'une certaine hauteur, à un moment donné, on perd aussi l'efficacité énergétique du bâtiment. Puis là, ben, on doit avoir de nouveaux redéploiements au niveau des services de pompiers. Si jamais il y a un incendie au 27e, 28e étage, ben là, est-ce qu'on a la capacité de faire ça? Est-ce qu'on a l'expertise? Est-ce que on doit développer tout à coup de nouveaux services parce qu'on décide de grandir autrement? Il faut se poser ces questions-là.
Monsieur Bonnet, autre question qu'il faut se poser, selon moi, à Lévis, c'est tout l'enjeu du transport. Puis je m'explique, on a énormément de gens qui nous écoutent, qui proviennent de Lévis, puis ils tiennent vraiment à leurs habitudes, à leur voiture, à leur liberté. Oui. Comment qu'on fait pour développer un transport à Lévis dans cette optique où les citoyens souhaitent conserver leur voiture, que le transport en commun est quand même assez déficient, puis que présentement les routes sont à saturation?
Ben, c'est pas compliqué. Il y avait un projet en 2013, un projet en 2017 qui faisait gagner 4% de part modale. Donc, il y avait 4% de plus de gens qui prenaient l'autobus. Oui, il y a toujours des gens qui vont avoir besoin de leur voiture, évidemment. Mais si on ajoute des voitures tout le temps, on fera pas de miracle à élargir les routes. L'entonnoir est toujours le même. On finit toujours au pont, là, tu sais. Donc, il va falloir trouver une autre façon de se déplacer pour ceux et celles qui le peuvent. Ce n'est pas une majorité, là, on le sait. Là, Vancouver a été super ambitieux. Il a décidé de faire 33-33-33, c'est-à-dire 33% des gens vont se déplacer en transport actif, 33% en transport en commun, 33% en auto. C'est wow, OK, les autres sont ambitieux. Ils ont peut-être une configuration qui leur permet ça. C'est sûr qu'ici, à Lévis, parler de transport actif pour 33% des gens, on va oublier ça assez vite, là, parce que on parle de moins de 2 km pour le transport actif pour aller au travail. Là. Mais est-ce qu'on peut être plus ambitieux au niveau du transport en commun? Ben, dans la vision 2040 que la ville a déposée, on dit qu'on veut passer de 5 à 10 % d'utilisation du transport en commun. Ben, il va falloir un projet conséquent parce que là, les voies réservées qu'on est en train de faire sur Guillaume Couture dans les gros travaux qui font de l'obstruction en ce moment, ben, c'est un maintien de part modale. Donc, avec la croissance qui va augmenter puis la densification, on va juste maintenir à 5 % le nombre de gens qui vont prendre l'autobus. Ce n'est pas la solution. Là. On avait une solution, on l'a mise de côté. Il va falloir y revenir parce que plus on attend, plus elle va coûter cher. Ça, c'est pour tout le monde. Là. Le transport en commun, c'est pour ceux qui prennent l'auto aussi, évidemment. Là. Plus on ajoute des voitures, plus tout le monde est pogné dans le pain, finalement. Là. C'est sûr qu'on a les travaux en même temps. Manquer de coordination, évidemment, entre le pont de Québec, la 20, la Guillaume Couture, tout ça en même temps, Lévis étant est-ouest, ben, il n'y a pas énormément de possibilités pour voyager est-ouest si tu bloques à peu près toutes les routes en même temps. Manque de coordination un peu avec la NTQ, mais nous, on a fait hier des propositions au conseil de ville pour essayer d'améliorer les choses, pour dire, ben, d'abord, oui, on a des équipes qui travaillent, font un bon travail, mais c'est pas parfait. On a eu quand même des problèmes, les gens l'ont vécu, on en est conscient. Et voici des pistes de solutions qu'on demande à l'administration de regarder. Et ça a été refusé, tu sais. J'ai l'impression que les élus veulent pas reconnaître le travail, le défi, c'est-à-dire, puis dire ben c'est vrai qu'on pourrait peut-être regarder ça. Tu sais, c'est vraiment un avis de proposition sans contrainte, là. C'était vraiment des propositions. J'aimerais ça que l'administration regarde ça. Comment on fait pour démobiliser les chantiers qui sont inactifs, tu sais, dans les semaines.
On en a parlé tantôt d'entrée de jeu, là, justement.
Ouais. OK, ben c'est ça. T'sais, dans les semaines de la construction, il y avait des chantiers où il se passait rien, les cônes étaient là. Ben, si c'est inactif plus de 24 heures, on peut juste tasser les cônes de plus en plus. Évidemment, on ne parle pas qu'il y a un trou, là, quand la rue est ouverte. Je pense que cet exemple qui m'a servi hier, ouais, ben là, s'il y a un trou, on peut pas enlever de terre. On le sait bien, là, tu sais. Mais il y a des petites choses qu'on peut améliorer. Puis, ben, l'équipe politique refuse de regarder ça, de dire qu'il y a un problème. Mais, tu sais, en même temps, ils nous ont dit, ah, ben, on va faire un plénier, on va vous expliquer ce qui est fait, puis on va essayer de regarder ça. Mais, tu sais, dans tout ça, oui, il y a l'expertise de la ville. L'expertise des gens qui sont là pour dessiner les chantiers pour améliorer la fluidité, mais il y a l'expertise des gens. Et c'est ça qu'ils se sont mis de côté à Lévis, c'est ça qui est triste. On faisait une consultation publique à la fin de l'été pour dire, bon, ben, vous avez vécu ça comment? Qu'est-ce que vous avez remarqué? C'est des choses que vous amélioreriez. Alors, pourquoi on fait ça? Ça, ça coûte tant. Si on n'est pas capable de faire ça, ça, c'est une règle qui ne nous permet pas. Ah, voici une bonne idée ici. C'est vrai, on pourrait améliorer ça comme ça. Mais il n'y a pas ce réflexe-là à Lévis. On le fait entre nous. On est bon, on est capable, on est numéro un dans tout. Moi, j'estime qu'on gagnerait beaucoup à ouvrir nos yeux, nos oreilles et à écouter les gens. Ouais.
Monsieur Bonnet, vous commencez à rentrer en voie de robot un peu, là, la qualité du son. Non, juste dans le sens que la qualité du son...
Okay.
Non, pas dans votre discours, dans le son qu'on a en ce moment.
D'accord.
Juste terminer, puis peut-être juste rapidement comme réponse, on a une demande ou une question plutôt qui vient d'un auditeur ou auditrice par texto. Monsieur Bonin, vous pensez quoi de l'abolition des express vers la colline parlementaire?
C'est un long débat. Ça a été un gros questionnement. En fait, ben, tu sais, la SCDJ, son mandat, c'est de déplacer les citoyens de Lévis sur son territoire. Puis, ben, il y a la RTC de l'autre côté qui fait son travail aussi. Donc, à partir du moment où on envoie les gens pour le réseau de la RTC, ben, nous, on doublait à peu près tous les parcours. Là. Les bus de la STVV longeaient le boulevard Laurier en même temps qu'il y a des 800, des 801. Il y avait plein de bus du RTC qui étaient là. Et puis, tu sais, après ça, on revenait à vide, évidemment. Donc, on perdait une demi-heure, trois quarts d'heure à venir un bus qui était inutilisé. Notre objectif, c'est de donner un peu plus de services à Lévis, aux gens de Lévis, pour les déplacer. C'est sûr qu'il y a peut-être une perte à considérer. Là, tu sais, qui nous disent là, ça me prend une demi-heure, ça me prend 45 minutes, il y a des transferts. En même temps, on a augmenté la fréquence. C'est un train plus souvent. Moi, de façon, au niveau gestionnaire, là, en bon gestionnaire, moi, je regardais ça et je trouvais que c'était une décision qui était correcte, qui était plausible. C'est sûr qu'on est conscient que les gens qui prenaient les parlementaires ont une certaine perte, là, parce que quelque part, il y avait une ligne directe, il y avait moins d'arrêts aussi, côté le Rhin-Nord. Mais je pense qu'administrativement, c'est une décision qui s'est. Maintenant, ben, je sais que l'administration avait fait des promesses de le garder à l'Évitam et Cernam, puis c'est une promesse qui leur appartient. Là, oui. Mais oui. Voilà.
Serge Bonin, chef de l'opposition officielle à Lévis. Je voulais juste le rappeler au cas où vous ne reconnaissez pas sa voix là, dans les deux dernières réponses, parce qu'il y a comme une voix numérique ou de robot là, qui sortait. Monsieur Bonin, toujours un plaisir. Merci pour votre temps.
Il y a des PT qui vous parle.
Merci, Monsieur Bonin.
Merci, bye.
Au revoir. Serge Bonin, chef de l'opposition à la ville, ouais, de Lévis.
Jamais facile d'organiser une opposition quand il n'y en a pas eu dans une ville. C'est ce que Serge Bonin et son équipe vivent à l'heure actuelle. Ça fait des années que Gilles Lehoulier là, est roi et maître à Lévis. Et là, eux s'organisent, vont consulter les citoyens. On sent de la grogne à Lévis présentement, notamment en matière de transport, développement urbain. Donc, jamais facile. Alors, je salue son courage politique d'être là puis de représenter une certaine partie là, de la population.
Oui, hey, courte pause. Après la pause, entre autres, première chronique de la saison de notre conseiller financier, Marc-Antoine Reed. On va parler de comment se rendre à l'indépendance financière, tout ça et bien plus à Rage Against le matin. Boulevard 101. Jusqu'à 10.